sur Europe 1 à 8h40 dans la matinale de Thomas Soto.
Ah, petite Soto.
Ça faisait longtemps. Hein.
Retrouvez la revue de presque de Nicolas Canteloup.
Ça t'intéresse pas quand je cause avec des politiques, c'est ça?
Nicolas Canteloup bouscule l'actualité avec son humour décapant.
Allez, viens dehors, stand-up, je vais te faire cracher ta banane, Soto.
Et ses imitations imparables.
J'adore votre matinale, c'est vraiment une émission de malade.
Nicolas Canteloup, du lundi au vendredi à 8h40 dans la matinale d'Europe 1.
Europe 1, un temps d'avance.
Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Et c'est une émission aérienne que vous propose Franck Ferrand aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Anissa, bonjour à tous. Nous recevons aujourd'hui Stéphane Kecklin, déjà auteur d'une biographie du plus grand as allemand de la Grande Guerre, Manfred von Richthofen, et qui, si je puis dire, récidive aujourd'hui avec une évocation de son ailier nettement moins connu, Ernst Udet. Alors je vais vous raconter le premier, après quoi nous évoquerons le second ensemble. Et puis tout à l'heure, à la fin de l'émission, je répondrai à la question de Jules sur l'origine des colonnes Maurice. Bon, on n'est pas très loin là encore de 14-18. Moi qui ai passé le week-end dernier sur les champs de bataille de Verdun, je ne suis pas dépaysé aujourd'hui.
Europe 1. Au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Les Français l'appelaient Petit Rouge ou Diable Rouge du fait de la couleur de son avion. Vous avouerez qu'à une époque où on essaie de passer le plus inaperçu possible dans le ciel en guerre, il est quand même assez inhabituel de faire peindre son avion en rouge vif. C'est ce qu'avait fait Manfred von Richthofen et c'est ce qui lui a valu, de la part des Anglais, le surnom de Baron Rouge. C'est celui avec lequel il est entré dans l'histoire. Son avion était un triplan, on en parlera tout à l'heure, un avion d'une maniabilité extraordinaire. Manfred von Richthofen est mort à 25 ans seulement, mais après 80 victoires confirmées. 80 victoires confirmées. C'est encore plus que notre as français René Fonck. Ça fait de lui l'as des as de la Première Guerre mondiale, bien entendu. C'est une sorte de légende que ce Manfred Albrecht Freiherr von Richthofen, c'est son vrai nom, qui était né pas tellement longtemps avant la Première Guerre, bien sûr, en 1892, à Kleinburg, près de Breslau, on est en Silésie. Aujourd'hui, c'est une région qui appartient à la Pologne. Il naît, ce Manfred, dans une famille aristocratique, famille prussienne. Il est le deuxième des quatre enfants d'un officier de cavalerie. Un officier de cavalerie dont la carrière militaire s'était interrompue un peu plus vite que prévu. Il s'appelait Albrecht Freiherr. Il avait subi un accident avec un cheval dans l'eau glacée. Ça avait interrompu sa carrière et ça avait fait de lui un homme incontestablement frustré et qui, sans doute, a projeté sur ses enfants une part de ses frustrations. Le petit Manfred a 9 ans quand la famille s'installe à proximité de Schweidnitz. Il grandit objet de toutes les attentions, nous dit Stéphane Kecklin. Sa mère s'appelle Kunigunde. Elle veillait, nous dit-il, à ses vêtements. Elle l'habillait de costumes blancs, peignait avec soin ses bouclettes blondes, le choyait comme s'il eût été une fille. Jamais elle ne songea pour lui à une carrière de soldat. Mais cette espèce de petite poupée ne rêve que d'une chose, c'est d'échapper à son corps de fille, si je puis dire. Il est obsédé par des désirs de chasse. C'est un enfant qui ne tient pas en place, qui rêve de vivre des émotions fortes. Bref, c'est un petit casse-cou comme on en voit souvent chez ces enfants trop protégés par une mère peut-être trop présente. Très vite, il va apprendre à faire du cheval et à 11 ans, c'est ce qu'autrefois on appelait dans les familles d'éducation rigide le passage aux hommes. Le garçon tourne le dos à la liberté, nous dit Stéphane Kecklin, tourne le dos à une enfance sauvage pour embrasser les rigueurs de l'instruction militaire. Il est envoyé par son père chez les cadets. Il n'aura jamais bonne presse auprès de ses professeurs, ajoute le biographe, qui s'échineront à le transformer en soldat, mais arriveront tout juste à secouer un garçon de mauvaise volonté. Ah, c'est un esprit fort, évidemment. On ne peut pas imaginer qu'un personnage qui par la suite s'illustrera, comme a pu s'illustrer Manfred von Richthofen, ait été un esprit docile. Il était tout le contraire. bien entendu. Il se moque de tout ça, il est confiant dans les forces qu'il met en avant, il est un excellent gymnaste, il est même un athlète. Sur les pistes, on le voit semer n'importe quel rival. Et à la fin de son instruction, il est sergent, bientôt second lieutenant en 1912. Son père, à ce moment-là, va lui offrir ce qui, à ses yeux, doit être la récompense suprême, un cheval magnifique qui s'appelle Zantuzza. C'est en 1913 qu'on voit Manfred intégrer son régiment de Uhlans. On est donc dans la cavalerie prussienne. Et c'est avec les Uhlans qu'il va donc commencer la guerre, naturellement. Des Uhlans détachés auprès de l'infanterie. Et vous savez, cette première guerre mondiale, cette grande guerre, n'est évidemment pas celle de la cavalerie qui se trouve constamment mise de côté, d'une certaine manière, qui est là en soutien, qui s'occupe beaucoup d'intendance. C'est pas très brillant, ça, bien entendu. On est dans cette guerre de position. La guerre de position n'est pas une guerre favorable aux cavaliers et aux chevaux, évidemment. Évidemment, il bout d'impatience dans le secteur de Verdun où il a été affecté. Manfred, l'attente est longue. On le voit occupé à toutes sortes de petites opérations, de petites missions. On n'est pas encore dans la grande boucherie de Verdun. Là, on est avant ça, bien entendu. Alors que fait-il de ses journées? Il joue aux cartes avec ses camarades. Il s'ennuie. Et puis, à partir du moment où les combats vont vraiment commencer à Verdun, à partir du moment où il y aura cette espèce de déluge d'acier, hein, ce tourbillon d'obus et d'horreur, évidemment, les chevaux auront encore moins leur place. Non, décidément, la guerre n'appartient plus aux Uhlans. Manfred écrit au commandant de sa division: « Excellence, je ne me suis pas impliqué dans la guerre pour collecter du fromage et des œufs, mais bien pour une autre raison. » Il demande à être versé dans les jeunes forces aériennes qui sont en pleine constitution à ce moment-là. Alors évidemment, dans son régiment, ça suscite un certain nombre de moqueries. Certains l'accusent même de trahison. Ses supérieurs ne sont pas d'accord. Et puis finalement, devant les nécessités de la guerre, il est bien muté. À la fin du mois de mai 1915, dans cette nouvelle force aérienne de combat, il a 23 ans à l'époque. C'est un tournant de sa carrière. C'est aussi un tournant à l'époque de l'histoire de l'aviation. C'est le début de l'aviation de combat, bien entendu. Alors, dans un premier temps, comme beaucoup de cavaliers qui se sont convertis à l'aviation, il va servir comme observateur dans le ciel de l'Est, si je puis dire. On le voit observateur en Russie, en Belgique aussi. Son premier combat aérien, il l'effectue le 1er septembre 1915. Il est seulement, à l'époque, le fusillé d'un lieutenant, d'un pilote qui s'appelle Georg Zäumer. Alors, ce premier combat est un complet échec, ça marche pas du tout, et ils vont s'accuser réciproquement d'être responsables de cet échec. Ça ne va pas entamer ce qui est en train de devenir une forte amitié, et on peut dire que d'une façon générale, Manfred von Richthofen aura eu la chance pendant toute sa carrière de rencontrer systématiquement ceux qui sont capables de le pousser, de le soutenir. Le 1er octobre 1915, ça c'est une date marquante, puisqu'il va rencontrer celui qui à l'époque est l'as des as, le lieutenant Oswald Boelcke. Il le rencontre dans une voiture restaurant de train. Et à ce moment-là, Manfred est complètement emballé par les récits de Boelcke, qui sont des récits de combat aérien.
De la bande originale du film Le Baron Rouge, le Baron Rouge qui était le surnom de Manfred von Zäumer, qui était un grand pilote de la Première Guerre mondiale, un grand aviateur allemand. Et la suite de son histoire, celle de Manfred Richthofen, eh bien c'est à suivre sur Europe 1 avec Franck Ferrand.
Europe 1, au cœur de l'histoire,
14h-15h, Franck Ferrand.
Et cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous racontez l'histoire de Manfred von Richthofen, ce célèbre aviateur allemand qui est resté comme une légende de l'aviation pendant la Première Guerre mondiale et qui va faire une rencontre décisive.
Oui, Manfred von Richthofen a croisé la route, si je puis dire, de l'as des as de l'époque, de Oswald Boelcke, dans une voiture restaurant de train, et il rentre transfiguré, nous dit Stéphane Koechlin. Revenu transfiguré du voyage, il demanda à Zeumer de l'initier au pilotage. Georg accepta, Manfred montra beaucoup de détermination à apprendre, indifférent à la fatigue, si bien qu'après une trentaine d'heures de vol, Zeumer lui annonça qu'il était maintenant prêt à voler seul. Voilà ce que nous dit Manfred lui-même. Un soir, mon professeur Zeumer me dit « Maintenant, va et vole de tes propres ailes. » Je dois avouer que j'aurais aimé répondre « J'ai peur, mais c'est un mot qui ne doit jamais sortir de la bouche d'un défenseur de la patrie. Donc, que je le veuille ou non, je devais le faire de mon mieux et monter dans la machine. » Eh bien, le voilà qui apprend à piloter. Ce Manfred, il est très doué, hein. Il fait des progrès très rapides. En mars 1916, il rejoint une escadrille qui est stationnée donc aux environs de Verdun. Il revient systématiquement dans cette région de l'Argonne. Le 25 avril 1916, ça va être sa première victoire, qui n'est pas une victoire homologuée. Première victoire en tant que pilote. Et en juin de la même année, il est transféré sur le front de l'Est, parce qu'il faut suivre une formation aérienne qui n'est pas terminée pour lui et qui donc est transféré là-bas. Alors évidemment, il est cantonné à des tâches qui ne sont peut-être pas les plus nobles. Il est chargé larguer des obus sur des gares qui sont bourrées de matériel et de troupes, sur des voies ferrées, sur des routes sillonnées de convois. C'est un travail de presque ce qu'on pourrait appeler déjà un travail de bombardement d'une certaine manière. Il s'agit de détruire des ponts, des dépôts de munitions. Tout ça n'est pas très glorieux et surtout, il n'y a pas de machine volante dans le viseur de Manfred. C'est ça dont il rêve, lui. En septembre 1916, Boelcke, le célèbre Boelcke, l'invite à rejoindre l'escadrille de chasse qu'il a créée, la Jasta II, qui est destinée à opérer dans le ciel de Verdun, justement. Oswald Boelcke passe beaucoup de temps à former ses recrues. 8 pilotes ont déjà rejoint sa petite formation. Ils vont passer à l'action le 17 septembre contre une formation anglaise. Nous avions tous compris que nous allions passer notre premier véritable examen sous les yeux de notre chef bien-aimé, écrira Manfred. Et c'est un premier succès. Il descend un bombardier pour son premier combat aérien. Et il va tout de suite commander à un joaillier berlinois une coupe d'argent sur laquelle il fait graver la date, le type d'appareil abattu, etc. Ça va être une tradition qu'il va poursuivre désormais à chaque fois qu'il abat un avion. En tout cas, il va poursuivre cette tradition jusqu'à la 60e de ses victimes, parce qu'après, l'économie de guerre étant ce qu'elle est, l'argent viendra à manquer et on n'utilisera plus d'argent pour ce genre de broutille, si je puis dire. Les victoires, vous l'aurez compris, s'enchaînent pour Manfred. Le 28 octobre 1916, c'est une date importante pour l'aviation de chasse allemande. C'est la mort accidentelle de Boelcke qui comptait déjà 40 victoires. À ce moment-là, Manfred von Richthofen en a 6 à son actif. Et on se dit qu'il pourrait devenir en quelque sorte le nouveau Boelcke. La propagande allemande comprend l'utilité qu'il y a de mettre en avant comme ça un certain nombre de ces grands pilotes. Manfred von Richthofen, attention, n'est pas pour autant un pilote d'exception. Il faut dire qu'il a, comme tout le monde, des ratés. On le voit casser pas mal de matériel. C'est le moins qu'on puisse dire. Il faut dire que l'aviation de l'époque est encore une fois très balbutiante, hein. Quand on voit les avions, quand on les a sous les yeux, on se dit mais comment osait-il monter dans des machines pareilles? On peut pas dire que la tactique de Richthofen, par ailleurs, soit particulièrement originale. Il ne prend pas de risques inutiles, il ne cherche pas à impressionner les autres. Vous savez, il ne fait pas partie de ces chevaliers du ciel qui font des figures acrobatiques incroyables, mais en revanche, il a un talent pour le tir qui est incontestable, ça fait mouche à tous les coups, et puis surtout, il a une capacité extraordinaire à contrôler ses ailiers. Ça, c'est peut-être ce qui va faire la différence chez lui. en janvier 1917. Voilà le moment où il décide de repeindre certaines parties de son appareil en rouge vif. Il vole sur Albatros à l'époque. Son but, c'est de se faire reconnaître. Alors, bien entendu que ça fait de lui une cible d'autant plus visible, mais surtout, ça va contribuer à faire peur à l'ennemi. Les historiens se querellent, nous dit Stéphane Quéclin, pour savoir si le baron agit par fantaisie, humeur passagère, ou s'il accomplit là un projet pensé et réfléchi. Sans doute se sentait-il investi d'une mission, en voyant le tombereau de photos et de lettres qu'il recevait. Remporter des victoires n'y suffisait plus, il lui restait à ouvrir les pages d'un grand livre. C'est sa légende qui est en marche, et c'est sa légende qu'il entend bien contribuer à écrire. Le 25 janvier 1917, la première percée de l'avion rouge résonna, nous dit son biographe, comme un tonnerre dans le ciel de Flandre.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
L'histoire de Manfred von Richthofen, c'est celle que vous avez choisi de nous raconter cet après-midi sur Europe 1, Franck Ferrand, avec, dans l'histoire de cet aviateur très célèbre, une date très importante.
Janvier 17, c'est le moment important dans la carrière de Manfred von Richthofen. Il reçoit la médaille de l'ordre du mérite allemand, hein, qui est la plus haute distinction militaire à l'époque pour l'armée allemande. Il va obtenir le commandement de son escadrille, en tout cas ça lui est confirmé, escadrille basée à Douai. En mars et avril 1917, il obtient les grades d'Oberleutnant, puis de Rittmeister, capitaine de cavalerie. Il commande donc un groupe de 12 pilotes, dont certains ne sont pas du tout expérimentés, il faut le dire. C'est un défi extraordinaire pour lui. En avril, ces hommes évoluent sur Albatros D3, c'est un appareil qui est un très bon appareil, plus maniable, plus efficace que beaucoup de ceux auxquels il est confronté. L'unité éclaircit les rangs des squadrons anglais, c'est le moins qu'on puisse dire. Et vous savez que ce mois d'avril 1917, du point de vue de l'aviation naissante britannique, est considéré comme le Bloody April, hein, l'avril sanglant. Richthofen va totaliser 21 succès pendant ce seul mois d'avril, ce qui va porter le nombre de ses victoires à 52. Au printemps 17, le général Ludendorff en personne lui accorde une permission exceptionnelle. Il va rédiger ses mémoires, ce qui est un véritable ouvrage de propagande, bien entendu. Tout ça est entièrement cousu de fil blanc. Le baron rouge voit paraître son livre. Il signe des autographes comme s'il était une vedette de l'époque. Et puis, il fait une petite tournée de promotion. Il donne des interviews, etc. Et deux jours plus tard, il est de retour à la guerre. Bien entendu, il est devenu maintenant une cible que désigne ce côté écarlate de son avion. Le 6 juillet 1917, il est touché à la tête. Il fallait s'y attendre. Il était trop exposé d'une certaine manière. On va le voir continuer à voler avec un bandage sur le crâne. Simplement, il est définitivement... Il va enregistrer de nouvelles victoires, bien sûr, mais il a des séquelles. Des maux de tête quasiment permanents, des bourdonnements, des sauts d'humeur, évidemment, qu'on peut comprendre dans une situation comme celle-là, des nausées qui vont le poursuivre jusqu'à la fin de sa vie. Oh, c'est une fin de vie qui va bientôt venir. C'est en septembre de cette année 17 qu'il reçoit son Fokker triplan, hein, cette fameuse appareil à 6 ailes, si je puis dire. Manfred lui-même avait réclamé le développement de cet appareil parce qu'il savait que il serait extrêmement agile, bien entendu. À cette époque, on peut dire qu'il est devenu lui-même une légende vivante. Les dirigeants allemands se mettent à craindre pour sa vie parce qu'on se dit que si jamais il était descendu, ce serait un coup terrible pour le moral des combattants de toutes armes, bien entendu. Ce serait un symbole d'échec pour l'armée allemande dans son ensemble. Et on est à une époque, 1918, où les Allemands ont encore bien l'intention de gagner la guerre. Printemps 18, on est dans leur ultime offensive extrêmement efficace. Le 2 avril, le Kaiser en personne décerne à Richthofen la croix de 3e classe de l'ordre de l'Aigle Rouge avec couronne et épée. C'est une récompense qui, de 1854 à 1918, n'aura été attribuée que 6 fois. Ça vous donne un peu l'idée de l'extrême reconnaissance dont bénéficie le baron rouge. Le 20 avril, il abat ses 79e et 80e adversaires.
Je vous ai dit qu'il avait eu 80 victoires, donc vous comprenez ce qui va se passer maintenant. Le 21 avril 1918, à 10h, des avions britanniques sont signalés dans le secteur d'Amiens et Richthofen décolle du terrain de Capi avec deux escadrilles, donc 25 appareils au total. Parmi eux, le jeune cousin de Richthofen, Wolfram, qui est arrivé à l'escadrille à peine 15 jours plus tôt et qui va devoir se contenter d'observer. Alors, parmi les adversaires, il y a de grands pilotes. Il y a Arthur Roy Brown, capitaine canadien, qui compte 12 victoires. Sous ses ordres, un pilote novice qui s'appelle Wilfred May, qui reçoit, comme Wolfram, l'ordre de rester en dehors de tout affrontement. May se trouve bientôt isolé. Il poursuit le triplan du Baron Rouge. Roy Brown se porte au secours de May. Il se dit, mon Dieu, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il se place dans la queue du Fokker. Il lâche une rafale de mitrailleuse sans résultat. May continue d'exécuter des manœuvres d'esquive tout en perdant beaucoup d'altitude. De son côté, Brown reprend de la hauteur. Il abandonne le combat. Manfred von Richthofen enfreint ses propres règles. À ce moment-là, il décide de poursuivre May à moins de 20 mètres du sol, loin derrière les lignes britanniques. Les tirs en provenance du sol se concentrent, vous imaginez bien, sur l'avion rouge vif. À ce moment-là, Richthofen aurait pu reprendre de l'altitude, mais il refuse de rompre le contact avec sa proie. À ce moment-là aussi, une balle va traverser l'habitacle du triplan rouge et percer la poitrine de Manfred, qui est encore conscient, qui dans un suprême effort parvient à poser son appareil sans l'endommager. Les troupes australiennes du camp qui étaient là, évidemment à court, on approche de l'avion, du mythe volant, vous imaginez, et on dit que le corsaire rouge, comme on l'appelait aussi, avant de s'éteindre définitivement, aurait prononcé le mot caput. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est une autre histoire. Les véritables circonstances de la mort du Baron Rouge restent floues. Pour l'armée britannique, c'est Roy Brown qui l'a eu. En fait, il semblerait bien, et la plupart des historiens maintenant sont d'accord pour admettre que l'avion a été touché depuis le sol. Bien entendu, c'est la défense contre aviation qui a fonctionné là. Le 22 avril 1918, Manfred von Richthofen sera enterré au cimetière du village de Bertangle. Bertangle, c'est près d'Amiens. Avec les honneurs militaires qu'on réserve d'habitude aux pilotes alliés, c'est vous dire la réputation qu'il avait pu acquérir. Et puis son cercueil sera transféré au cimetière militaire allemand de Fricourt en 1919. La famille Richthofen confiera à son jeune frère la mission de rapatrier le cercueil en Allemagne avec l'autorisation spéciale de la France le 16 novembre 1925. Il sera accueilli par la foule, etc. Il faudra attendre le cinquantenaire de ce transfert en 1975 pour que la sépulture soit transférée à Wiesbaden et que le corps de Manfred puisse reposer définitivement dans le caveau familial. Bonjour Stéphane Quéclin.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes le biographe de Richthofen, mais aussi celui de Ernst Udet. Alors celui-là, on ne le connaît pas, mais vous êtes là pour combler nos lacunes.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
Et c'est une émission très aérienne que vous nous avez réservée aujourd'hui, Franck Ferrand, avec votre invité. Vous recevez Stéphane Quéclin, journaliste et écrivain, auteur du dernier vol pour l'enfer, Les cinq vies d'Ernst Udet, paru il y a quelques semaines chez Fayard, et puis auteur de La légende du Baron Rouge, paru chez Fayard aussi.
Alors il faut peut-être que nous revenions, Stéphane Quéclin, sur votre personnage principal, si je puis dire, sur ce héros dont vous avez fait la biographie, ce Baron Rouge. Pourquoi ce surnom? À cause de la couleur de son avion, tout simplement.
À cause de la couleur, et puis c'est ce qui m'a donné envie d'écrire un livre sur lui, parce que j'ai découvert le Baron Rouge en lisant une bande dessinée mythique dans Spirou, Les histoires de l'oncle Paul.
Oui.
À l'époque, il y avait des grands dessinateurs comme Hubinon, Jigé, qui étaient chargés un petit peu de raconter des grands personnages comme ça, de l'histoire du XXe siècle. Et dans une de ces histoires, il y avait le Baron Rouge. Et évidemment, au détour d'une page, j'apprends que ce personnage avait fait repeindre son avion en rouge vif. Alors j'ai trouvé que c'était une esthétique absolument admirable, remarquable. Ce personnage a commencé par me hanter, par m'imprégner. Et je me suis dit, c'est un poète, un mégalo, c'est quelqu'un d'exceptionnel. Et je ne voulais pas le croire même au début. Donc j'ai commencé à faire des recherches. Et puis je me suis dit, bon, un jour j'écrirai cette histoire parce qu'elle me semble vraiment l'invention pour moi de l'audimat, l'invention presque de la télévision,
oui,
finalement.
Il y a une grande part de propagande dans tout ça.
On
fabrique un héros, en quelque sorte.
De mythologie. Lui-même, il savait très bien, inconsciemment, qu'en faisant peindre son avion rouge vif, il s'exposait évidemment aux balles adverses, mais en même temps, il allait, à mon avis, marquer le ciel de la guerre de 14-18.
Oui, c'était un homme qui, bien avant l'heure, avait le sens de la communication, disons-le. Un jeune homme. Alors, ce qui est fabuleux, c'est que tous ces cavaliers de 1915 sont passés quasiment du jour au lendemain à l'aviation et ils ont importé dans la nouvelle arme aérienne, qui d'ailleurs n'était pas encore une arme indépendante à l'époque, ils ont apporté toute leur tradition de cavalerie. C'était ce qu'on appelait les chevaliers du ciel, en vérité.
Ce qui est fabuleux, c'est qu'ils commencent la guerre à cheval et ils terminent roi de l'aviation dans les airs, et alors que l'aviation est devenue quand même une arme de destruction massive.
Bien sûr.
Parce que quand en 14-18...
Ou en tout cas systématique.
Oui, c'est des grands vélos géants hein, qui volent tant bien que mal. Mais en 1917 et en 1918, ce sont vraiment des armes de destruction massive d'une efficacité redoutable, presque cauchemardesque. Puis à partir de 1915, Roland Garros décide, parce qu'à l'époque on se tire comme des canards hein, au fusil, Roland Garros décide de monter une mitrailleuse derrière l'hélice.
Qui va tirer à travers l'hélice.
À travers l'hélice avec les balles qui heurtent l'hélice. Alors c'était très dangereux parce que les balles pouvaient revenir en ricochet sur le pilote et endommager l'avion. Et évidemment, Roland Garros tombe avec tout son équipement aux mains des Allemands et c'est l'ingénieur Anton Fokker, qui aurait pu d'ailleurs travailler pour les Alliés, mais les Alliés n'avaient pas voulu de ces avions.
Il était néerlandais, lui. Oui.
Hollandais. Mmh. Et donc il a décidé de travailler pour les Allemands. Et lui, nous on a le génie et les Allemands nous ont le perfectionnement et le côté un petit peu rigoureux. Il va perfectionner un système de mitrailleuse synchronisée, c'est-à-dire qu'il tire à travers les pales de l'hélice. Et à partir de là, l'aviation devient vraiment une arme d'une efficacité redoutable.
Et c'est à partir du moment où on peut tirer à travers l'hélice que commencent ces espèces de combats d'une virtuosité folle entre des as, comme on les appelle, qui vont donc dans le ciel se poursuivre et se chasser, essayer de descendre chaque avion. Parce que chaque avion tombé est une grande victoire. Hein,
Avion tombé est une grande victoire. Alors les Allemands ont quelque chose de plus que les Alliés, c'est-à-dire qu'ils inventent l'escadrille. C'est-à-dire qu'Oswald Bulk, donc, que vous avez évoqué tout à l'heure, est quelqu'un qui a mis au point les escadrilles. C'est-à-dire qu'avant Oswald Bulk, les aviateurs partaient un petit peu à la va comme je te pousse, en cherchant une proie comme ça dans le ciel. Et Oswald Bulk dit non, on va avoir des ailiers et on va partir en groupe. Et c'est à ce moment-là où l'aviation allemande devient une arme de guerre, devient une arme très militarisée et que les combats vont devenir absolument sauvages. Et c'est pour ça que l'aviation allemande va prendre un petit peu le pas sur l'aviation alliée.
Alors je vous propose de laisser un peu de côté le célèbreissime Baron Rouge que tout le monde, même dans le camp allié, connaît bien et connaît très bien, hein, ce Manfred von Richthofen, l'as absolu aux 80 victoires. Le deuxième as, c'est René Fonck qui en a 75.
Hein. Oui, mais il en aurait 125, 130, parce qu'il y a beaucoup de victoires qui n'ont pas été homologuées et voilà. Il est resté à 75.
Et c'est ça. Alors lui, c'est notre héros français, si je puis dire. On va le laisser aussi de côté et parler d'un de ceux qui volait dans le sillage de Richthofen, qui s'appelle donc Ernst Udet. Et alors lui, par contre, en France, il est très méconnu.
Ah, il est très méconnu parce que d'abord, Ernst Udet, c'est un peu l'anti-baron. C'est-à-dire que le baron découvre l'aviation un peu pendant la guerre. Alors qu'Ernst Udet, dès 1908-1909, il fait voler des maquettes un peu sur la rivière Isard avec ses amis. Vous savez, la rivière Isard où on
donc lui se passionne déjà pour l'aviation.
Il se passionne déjà pour l'aviation avant la guerre. Alors tout de suite, il va commencer parce que d'abord c'est pas un aristocrate, il est plutôt de la classe moyenne. Son père n'est pas un militaire, c'est un ingénieur. Donc il vient quand même de la classe moyenne. Et il commence la guerre lui à motocyclette, c'est-à-dire que c'est le cheval mécanique en quelque sorte. Donc il commence la guerre un peu différemment et il va avoir quelques petits problèmes parce qu'effectivement il va demander un petit peu comme le Baron Rouge son transfert dans l'aviation parce que depuis qu'il a vu en 1909 des meetings aériens parce que son père l'emmenait voir des meetings aériens à l'époque en 1909-1910 vous avez déjà des vedettes qui tournent vous avez des gens comme Louis Blériot Adolphe Pégou qui font des grandes manœuvres des grandes exhibitions et qui finalement finissent par fasciner toute une jeunesse à la fois allemande et à la fois française et donc fait partie Ernst Udet qui veut justement lui devenir très vite aviateur. Il va demander effectivement son transfert parce que être en motocyclette, c'est aussi épouvantable qu'être à cheval. On ne peut pas s'en tirer. Donc, il rêve de voler. Il rêvera toujours plus de voler que de la guerre. Alors que le Baron Rouge, lui, rêve quand même beaucoup de guerre. Alors qu'Ernst Udet, oui, lui, il veut faire la paix, il veut voler.
Richthofen est un cavalier qui s'est converti aux ailes et qui va devenir donc une sorte de combattant du ciel. Ernst Udet est d'abord un aviateur dans l'âme, si l'on peut dire, qui, par nécessité, va se retrouver dans la guerre. Mais qui admire comme personne ce Baron Rouge qui est un peu devenu son idole, il faut le dire.
Ah bah, il admire le Baron Rouge parce que le Baron Rouge va avoir une carrière très rapide. Alors qu'Ernst Houdet, lui, commence d'abord en prison. Parce que les premiers vols qu'il fait, il fait des acrobaties et il se retrouve, il y a un commandant.
Quand il arrive au sol, on le colle en tôle, en fait.
On le colle en tôle et il y a un commandant qui veut le chasser de l'aviation. Il dit, je veux pas de clown, je veux pas de mecs qui font des manœuvres interdites. Parce que c'est quand même, on croit que ça n'est pas du tout, c'est quand même réglé. Il y a quand même des lois, des règles et il faut que les aviateurs se comportent comme des militaires. Donc il va avoir quelques problèmes pour démarrer sa carrière d'aviateur. De même qu'il manquera plusieurs fois de se tuer, parce qu'à un moment donné, il prend possession d'un Fokker, et à peine décolle-t-il que le moteur s'arrête. Donc c'est Ernst Houdet, c'est un miraculé, finalement, de l'aviation. Il aura eu plus de problèmes que le Baron Rouge pour faire voler des avions. Il aura eu quelques grands accidents assez graves, quand même.
Il devient ailier de Richthofen, il faut le dire. Qu'est-ce qu'un ailier? Il faut peut-être qu'on explique ça.
Un ailier, c'est celui qui est chargé de couvrir un petit peu le leader. Alors, il devient ailier, mais vers la fin.
C'est-à-dire que lorsqu'un as de 14-18 est en l'air, il a généralement à sa droite et à sa gauche des avions qui sont là pour le protéger, en quelque sorte, qui le couvrent.
Pour le prévenir, voilà, pour le couvrir d'aviations qui pourraient attaquer dans le soleil et qui sont là pour le couvrir. Et effectivement, ce qu'on a reproché un petit peu au Baron Rouge, c'est de s'entourer un petit peu d'une armée de gardes du corps et d'aller.
Il avait sa garde prétorienne.
Il avait sa garde prétorienne. C'est un peu comme un Romain, centurion romain qui arrivait pour attaquer les ennemis et qui finalement, quelquefois, donnait le coup de grâce à une proie, un petit peu à un cerf, parce que ce sont des chasseurs aussi. Donc, ils pratiquent la chasse aérienne comme ils chassaient autrefois le cerf dans les forêts allemandes. Donc, ils sont comme ça. Donc, Ernst Houdet arrive vers la fin, vers mars 1918. Il arrive, il a son rêve est exaucé. Il intègre la fameuse Jasta 11. Donc, il vole une fois avec le Baron Rouge parce que quand le Baron Rouge recevait de nouveaux venus, l'honneur suprême, c'est qu'il volait avec eux. Et après, il les affectait à une autre escadrille et quelquefois, les nouveaux venus ne volaient plus du tout avec le Baron.
Ah oui, ça devait être une frustration terrible.
Ah, c'est une frustration.
Ernst Houdet va donc apprendre la mort de Manfred von Richthofen. Il s'en remet jamais vraiment.
Alors, il apprend la mort, il est même pas au front. Parce que, à l'époque, il avait une infection à l'oreille. Et alors, le Baron Rouge ne rigolait absolument pas avec ce genre de... Il voulait des soldats, des aviateurs absolument
en
parfaits
état,
de santé.
Oui.
Donc, il a essayé de cacher son infection à l'oreille, mais le Baron Rouge a dit, non, moi, tu vas au front, tu te soignes et tu reviens quelques mois plus tard. Donc, il revient, il retrouve sa fiancée. Parce qu'il faut savoir aussi que, petite parenthèse, le Baron Rouge allait faire peindre son avion en rouge vif, mais Ernst Houdet, lui, il avait gravé le nom de sa fiancée d'enfance, Éléonore, sur le fuselage de son appareil.
Il y a un
appareil.
Caractère très romanesque chez ce personnage. On va y venir dans un instant. C'est un homme à femme. C'est, à ma connaissance, le seul aviateur dont l'avion ait été abattu par un lion. On y vient dans un instant.
Cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, nous avons d'abord fait la connaissance de Manfred von Richthofen, célèbre aviateur de la Première Guerre mondiale. Maintenant, place à Ernst Houdet et on en parle avec votre invité Stéphane Quéclin, journaliste et écrivain. Qui a écrit « Dernier vol pour l'enfer, les cinq vies d'Ernst Houdet » paru chez Fayard.
Alors, vous avez bien compris que nous avons laissé tomber Manfred von Richthofen et que grâce à la connaissance incroyable que Stéphane Quéclin a acquise de toute cette aviation allemande de l'époque, nous sommes en mesure aujourd'hui de vous raconter la vie totalement méconnue en France de ce Ernst Houdet. On disait que c'était un homme à femme, on en était là.
Oui, c'était un homme à femme et qui était d'ailleurs promu au mariage parce qu'en fait, très très vite, il avait une femme qui s'appelait Éléonore et il voulait l'épouser, il avait dit après la guerre, je t'épouserai. Et donc, il avait effectivement fait marquer sur le fuselage de son appareil l'O, deux initiales, qui était finalement comme un chevalier qui porte les couleurs de sa belle, de sa dame. Et donc, finalement, il ne rêvait qu'une d'une chose, c'est de revenir l'épouser après la guerre. Après, ça ne se passera pas comme ça, parce que finalement, il aura changé un petit peu. Il remarque que Éléonore, il l'épouse, il divorce très vite après, parce que la vie sédentaire après la guerre ne lui convient pas. Il ne rêve que d'une chose, c'est de voler dans une post-guerre très difficile pour les aviateurs allemands, parce qu'ils sont interdits, ils ne peuvent plus voler, le traité de Versailles et leur interdit.
Le traité de Versailles, on ne dira jamais à quel point ce traité de 1919 était d'une sévérité invraisemblable contre l'Allemagne, qui était le vaincu de cette grande guerre, bien entendu, et qui a eu toutes les humiliations, toutes les vexations, toutes les interdictions possibles, y compris celles qui empêchaient ces aviateurs de voler, quand même.
Et d'ailleurs, Ernst Houdet est pris entre deux feux. C'est-à-dire qu'il y a les aviateurs comme Rudolf Berthold qui veulent continuer la guerre nationaliste, et qui sont un petit peu... ils veulent à tout prix que l'Allemagne retrouve ses couleurs. Il y a ceux qui bon, vont essayer de voler sur les lignes commerciales. Alors par exemple, Lothar von Richthofen, lui prend, lui aussi, Lothar von Richthofen, qui est le frère du Baron Rouge, est un personnage à femme aussi, est un personnage qui ressemble beaucoup à Ernst Udet, et qui d'ailleurs va se tuer en 1922 avec une actrice qu'on appelait la Marie Pickford allemande, qui était une actrice célèbre allemande à l'époque. Et donc, il va épouser une comtesse aussi un peu avant. Donc ce modèle-là aussi fascine Ernst Udet, qui veut devenir une sorte d'aventurier des airs.
Votre livre s'appelle « Les cinq vies d'Ernst Udet », c'est comme les sept vies des chats en fait. Et c'est vrai qu'alors on a vu la guerre, on comprend que les femmes sont très présentes. Il y a le cinéma, vous venez de citer le cinéma, il faut expliquer ça.
Ah bah, le cinéma, c'est-à-dire qu'effectivement, parce que d'abord il a remarqué que pendant la guerre, il faisait le spectacle.
C'est un acrobate, vous l'avez
dit. Quelquefois, même il jonglait dans le mess. Il y avait des enfants à chaque fois qui regardaient ses évolutions pendant la guerre. Et après, il fait de la voltige aérienne. Hein. Il trompe un peu, il dupe un peu le traité de Versailles. Mm-hmm. Et il arrive à faire de la voltige.
À titre civil.
Et après, brusquement, il veut tourner des films. Il se dit pourquoi ne me mettrais-je pas au service du cinéma. Et c'est à ce moment-là qu'il approche Leni Riefenstahl, qui est une ancienne danseuse.
Oui, dont on parlait il y a quelques jours à ce même micro.
Voilà, qui est une actrice, et il va tourner alors un petit peu des rôles d'aviateurs qui sauvent des expéditions dans le froid polaire. Alors l'un des films célèbres, c'est Tempête sur le Mont Blanc. L'autre, c'est SOS Iceberg, qui sont quand même des films tournés.
Films d'aventure pure.
D'aventure pure, hein, à Saint-Maurice. Ou à la fin, Ernst Udet arrive avec son avion, et alors là il évolue près des glaciers. Il a absolument pas de doublure, hein. Il risque sa vie, et il emmène Leni Riefenstahl, dont il est un peu amoureux d'ailleurs, il faut dire. Il la drague de manière un peu hontée d'ailleurs. Dans ses mémoires, elle s'en plaint, elle dit: j'adorais Ernst Udet, mais il m'invite et il commande des bouteilles de champagne, parce que c'était ça aussi Ernst Udet, c'était tout son argent, c'était pour plaire aux dames, il adorait inviter les filles dans les grands restaurants. Enfin, c'était vraiment quelqu'un qui vivait une vie d'aristocrate de la fête, presque, qu'il n'avait pas pu vivre tellement pendant la guerre de 14-18. Donc il va tourner plusieurs films et essayer de devenir acteur de cinéma, ce qui ne sera pas très facile pour lui.
En fait, il n'a pas beaucoup de chance avec les femmes, mais il n'a pas beaucoup de chance dans sa carrière civile non plus. On ne peut pas dire que ce soit un acteur qui est réussi à devenir emblématique. C'est
non,
le moins qu'on puisse dire.
Il rencontre Karl Lemleu, qui est donc le patron du Universal. Il veut tourner des films un peu comme acteur, comme pas simplement l'aviateur qui vient pour secourir la belle à la fin. Il en a marre. Ça fait quand même trois films qu'il tourne là-dessus. Et finalement, Karl Lemleu dit bon, on te rappellera. Mais en même temps, en ce moment, il y a la montée du nazisme en Allemagne. Donc, il est allemand. Donc, sa réputation, son étoile pâlit un peu. On n'ose plus engager tellement d'Allemands pour faire des films américains.
Et surtout des Allemands qui ont été quand même des héros de guerre, même si lui n'est pas un as de la Grande Guerre. Mais enfin, tout de même, hein, il a beaucoup donné de sa personne à la fin de la guerre.
Oui, à la fois, il a quand même une étoile, et il a une aura qui est quand même assez remarquable, mais en même temps, il reste allemand. C'est-à-dire qu'on hésite un petit peu à lui donner le premier rôle.
Avant qu'on oublie, il faut que vous racontiez cette histoire du lion que j'évoquais là, à l'instant.
Alors ça, c'est encore une fois, c'est pendant qu'il tourne, effectivement, pendant qu'il fait ses films avec Leni Riefenstahl, il est aussi engagé pour faire des safaris en Afrique. Alors, ces safaris, c'est-à-dire qu'il est pilote, et derrière, il y a le fiancé Leni Riefenstahl qu'il a essayé d'évincer, qui filme comme ça des animaux sauvages. Et à un moment donné, en volant en rase-motte,
pour essayer de s'approcher le plus possible de la faune,
il y a un lion qui surgit un petit peu de la savane et qui, d'un coup de patte, endommage son train d'atterrissage. Et on peut dire que c'est le
seul avion. Qui déstabilise l'avion.
Et bon, il arrive à se poser comme ça en catastrophe. Et on peut dire que c'est le seul cas où un aviateur a été abattu par un animal sauvage.
Oui, par un lion.
Par un lion.
C'est complètement extraordinaire. On est quand même dans une entre-deux-guerres, là, de carton-pâte, qui fait penser, c'est Hollywood, c'est Tarzan, c'est King Kong.
C'est ça,
l'ambiance.
Moi, je pensais, vous savez, à Marianne Cooper, Ernest Chunsack, qui étaient des chercheurs d'or, qui après avaient tourné King Kong. On est dans le safari. On est dans Joseph Kessler. On est un peu dans cette littérature d'aventure un petit peu exotique, Saint-Exupéry, l'aéropostale. On est un peu là-dedans. D'ailleurs, il rêvait, Ernst Udet rêvait d'être Mermoz. Il rêvait finalement de devenir Lindbergh. Et il n'a pas eu le courage un petit peu d'arrêter de gagner de l'argent facilement pour essayer de traverser l'Atlantique et de devenir un héros universel.
Oui, pour incarner un des épisodes de l'histoire des ailes. Quoi. Voilà. Ça aurait pu être le cas. Bon,
il a un peu sombré un petit peu dans la facilité, la fête, le champagne.
Cinq vies, la guerre, les femmes, l'acrobatie, le cinéma. Il ne faudrait peut-être pas oublier, et ça n'est pas le plus brillant des chapitres, évidemment, la politique, parce que on parlait du parti nazi, il va s'en rapprocher très vite.
Oui, à son corps défendant, parce que à un moment donné, Göring, hein, qui a donc été
as. Encore un autre as, d'ailleurs, faut dire un mot de ça. Hein,
alors oui, on peut dire un mot de Göring, parce que Göring a pris le commandement de la fameuse escadrille de Richthofen après la mort, en juillet 1918. Et il en a profité politiquement pour essayer de se mettre en valeur. Donc il a capitalisé sur le prestige de cette escadrille. Et Göring est quelqu'un qui trouve des engagements à la fin de la guerre, facilement, parce qu'il a des connexions politiques, et du coup, les autres aviateurs un peu au chômage sont un peu envieux un peu de lui, et se rapprochent souvent de Göring. Lothar von Richthofen le rejetait, enfin l'excluait de toutes les réunions d'anciens aviateurs, parce que Lothar, le frère du baron, détestait Göring. Il le trouvait un peu arriviste, un peu calculateur. En revanche, Ernst Udet, lui, s'en méfie aussi, donc évite un petit peu de s'approcher de Göring, et Göring lui dit « Toi, je t'aurai, tu viendras travailler avec moi ». Et Ernst Udet dit « Non, moi la politique c'est un bruit comique, c'est un bruit de fond, je ne veux pas ». Et comment Göring va convaincre Ernst Udet de rejoindre la Luftwaffe et de devenir une huile du parti nazi, et c'est voilà. Parce qu'il lui dit « Il y a deux avions que tu veux acheter, tu n'as pas l'argent, moi je t'achète tous les avions que tu veux et en même temps tu pourras essayer tous les prototypes sortis des usines Messerschmitt ». Alors évidemment, pour un fanatique du vol et du pilotage comme Ernst Udet, il ne peut pas refuser.
Mais ça veut dire que Ernst Udet, qu'on le veuille ou non, et quand on prononce aujourd'hui son nom, c'est un ponte du régime nazi.
C'est devenu un ponte du régime nazi, mais il n'est pas du tout à la hauteur de l'événement. Moi, je pense que si les nazis ont perdu la bataille d'Angleterre, c'est parce qu'à l'époque, Ernst Udet, qui est chargé donc de l'approvisionnement de la Luftwaffe, donc d'approvisionner les avions, préférerait aller au casino, boire, inviter dans le fameux restaurant Orscher à Berlin des belles femmes, et n'a pas travaillé suffisamment, alors que la bataille de France, il y avait eu beaucoup d'avions allemands abattus, plus que prévu, et du coup il n'a pas pourvu à la réserve.
Voilà. Il nous reste quelques secondes pour évoquer les circonstances de sa mort, qui sont quand même pas banales.
Alors les circonstances de sa mort, c'est effectivement, il est en désaccord avec le parti nazi sur la bataille d'Angleterre.
Et oui, là, on est en pleine guerre.
On est en pleine guerre et sur les projets d'invasion de l'Union soviétique. En même temps, qu'est-ce qu'a fait Ernst Udet ? Il a une liaison avec Martha Dodd, qui est donc la fille de l'ambassadeur américain à Berlin et qui est devenue une espionne soviétique. Et ça, il ne le savait pas. Et donc, il craint que
le savait pas, mais on l'en informe.
On l'en informe effectivement, et il craint que cet événement le fasse arrêter. Donc du coup, il est vraiment désespéré. Il a l'impression d'avoir raté sa carrière, de n'avoir réussi aucune de ces cinq vies dont je parle dans mon livre. Et en novembre 1941, il se tire une balle dans la tête et il aura un enterrement royal, un peu comme Manfred von Richthofen, parce qu'effectivement, pendant un certain temps, les nazis
cachent.
Pour
Hitler, il vaut mieux faire comme si tout allait bien.
Oui, voilà. Et puis les nazis cachent un peu les raisons de sa mort. Il parle d'une arme secrète. Il dit que Ernst Udet est mort en essayant une arme secrète. Et ils mettront plusieurs années avant de reconnaître qu'il s'est suicidé.
Votre grand récit sur les cinq vies d'Ernst Udet s'appelle « Dernier vol pour l'enfer », Stéphane Quéclin, et ça vient de sortir chez Fayard. Fayard, vous aviez déjà publié cette biographie de Manfred von Richthofen, « La légende du Baron Rouge », il y a quelques années. Merci beaucoup de nous avoir entraînés dans les airs à vos côtés.
Et dans un instant, restez avec nous sur Europe 1. Franck Ferrand vous donnera les origines des colonnes Maurice. C'est dans moins d'une minute, à tout de suite.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Avec aujourd'hui pour vous, Franck Ferrand, une question de Jules sur la page Facebook au cœur de l'histoire. Il voudrait connaître l'origine des colonnes Maurice qui se trouvent sur les trottoirs parisiens.
Décidément, nous restons en Allemagne puisque ces colonnes d'information sur les spectacles sont nées en 1854 à Berlin. C'est un Berlinois, Ernst, un autre Ernst, tiens d'ailleurs, il s'appelait Ernst Litfaß qui les a inventées. D'ailleurs, on appelait ça en Allemagne les Litfaßsäule. Ces colonnes ne vont apparaître sur les trottoirs parisiens qu'en 1868 et c'est un imprimeur qui s'appelle Gabriel Maurice, voilà, qui va les importer en France d'une certaine manière. Une nécessité grandissante à cette époque où les lieux de divertissement, les cirques, les théâtres, enfin tout ce qu'on peut imaginer, les cabarets, se multiplient à Paris, bien entendu. Il faut donc des espaces propres pour faire la promotion de tous les spectacles. La colonne Maurice, telle qu'on la connaît aujourd'hui, n'est qu'une réinterprétation de l'ancienne colonne mauresque qui était apparue 30 ans plus tôt et qui faisait office à l'époque d'urinoir, il faut le dire, hein. c'est-à-dire que c'était des urinoirs et autour, eh bien, on s'en servait pour afficher. Le ministre d'État et surintendant général des théâtres parisiens lance un concours pour trouver un nouveau support exclusivement réservé à l'affichage. On est donc sous le Second Empire, bien entendu. C'est la Maison Maurice qui remporte le concours. À la fin des années 1860, donc, on dissocie les deux fonctions. La colonne mauresque qui conserve son usage et puis la colonne Maurice pour l'affichage des spectacles parisiens. La société Maurice va disposer d'un monopole pendant 15 ans et en échange, elle couvre les frais de construction, elle s'occupe d'imprimer les affiches, etc. On peut dire que la colonne Maurice est devenue avec le temps un des objets emblématiques de Paris, un peu comme les fontaines Wallace, vous savez, ou les célèbres bouches de métro dessinées par Hector Guimard. Et voici Marion Ruggieri. Bonjour Marion.